2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
Le temps des copains.
Belle, belle, belle comme le jour.
L'émission des années 60.
Hey, hey.
Sur RVE.
1, 2,
RVE, bonne matinée. Il est 10h. Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de votre actualité de la semaine et c'est la saga Johnny Hallyday qui a rebondi cette semaine avec ce testament. Ses deux premiers enfants ont-ils été déshérités? Cela tiendra-t-il devant la justice? Le feuilleton n'est pas prêt de s'arrêter. Et alors indépendamment de la question de droit qu'on laissera au juge de trancher, il y a le fait que tout le monde maintenant prend la parole sur le sujet. Les premiers intéressés, Laura Smet et David Hallyday, Laetitia Hallyday qui parle de son écœurement et puis l'entourage, Sylvie Vartan qui dénonce les fausses informations, affirmant que la part que David a reçue de la maison de Johnny, c'était sa part à elle, qu'elle a laissée à son fils. Il y a eu le chanteur Eddie Mitchell aussi, qui est parrain de Laura, et qui estime qu'il est normal qu'il la soutienne. Et puis, il y a la grand-mère de Laetitia Hallyday, Eliette Boudou, qui est mamie rock, hein, elle s'occupe du business du clan Hallyday. J'en pense pas du bien de Laura et David, a-t-elle lâché. Autre feuilleton auquel on a eu droit cette semaine, celui du Service National Universel. Ils ont dit, redit et re-redit pour être sûr et certain que cette promesse de campagne ne sera pas enterrée, qu'il y aura bien le retour d'un service national obligatoire pour les femmes et pour les hommes, l'idée étant de créer un brassage social et d'apprendre à partager les valeurs de la République. Alors sur les modalités, ça reste flou, 3 ou 6 mois ou 1 mois d'un seul tenant ou segmenté entre 16 et 18 ans, sans casernement massif, avec une ouverture tout de même sur la chose militaire, la forme pourra être civique, et puis le coût 2,4, 3 milliards, ou bien 6 ou 7 comme certains disent. C'est un feuilleton là aussi qu'on suivra. Le feuilleton en revanche est terminé pour la réforme du bac. Ça y est, c'est annoncé, c'est décidé, c'est fait. 4 épreuves écrites et un grand oral. Un tronc commun, disparition donc des filières LES, S, STT, etc. Une chose encore incertaine, c'est le nouveau nom de la classe de terminale. Classe de maturité, c'est le nom qui a été proposé. Cette semaine a été aussi très judiciaire avec l'affaire Maïlis. Le suspect a enfin avoué, les restes de l'enfant ont été retrouvés. Le procès Jawad relaxé. Jawad Ben Daoud, le logeur des terroristes de novembre. Le parquet fait appel. Jérôme Cahuzac, de nouveau devant la justice, condamné à 3 ans de prison ferme, l'ancien ministre, pour fraude fiscale. Gérald Darmanin avec une nouvelle plainte pour abus de faiblesse, tandis que sa plainte pour viol a été classée sans suite. Et puis Tariq Ramadan qui reste en prison, lui aussi soupçonné de viol. Quittons les tribunaux pour les pistes de ski, avec de superbes médailles d'or cette semaine pour la France. Martin Fourcade en poursuite biathlon, son 3e sacre aux Jeux Olympiques d'hiver, après les 2 de Sochi. Malheureusement, il n'a pas pris celle du 20 km. Superbe médaille d'or aussi de Pierre Vautier en snowboard cross, 4 ans après Sochi, c'est lui aussi son 2e titre, et dire que s'il n'avait pas chuté à Vancouver dans la dernière ligne droite, il serait déjà à 3 médailles d'or. Et puis une médaille d'argent qui vaut peut-être de l'or, à 16 ans, Julia Pereira de Souza était inattendue en finale et sur le podium de snowboard cross. C'est incroyable, je rêvais de la médaille, mais pas si vite, a-t-elle dit. Je suis juste au lycée, j'ai même pas mon bac. Voilà pour cette rétrospective, merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec nous.
La météo de votre région, sur RVE. RVE.
Dans quelques instants, le sport sur RVE avec Philippe Carnus. Sachez aujourd'hui que la météo sera une météo mitigée avec de rares averses, des gros passages nuageux et quelques éclaircies. Les températures ne devraient pas excéder les 7 à 8 degrés. Bienvenue en tout cas et bon dimanche sur RVE. Voici le sport.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnus.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 18 février. La neige est partie cette fois-ci, il fait bon et pourtant nous serons dans la continuité dans cette émission puisqu'en deuxième partie, eh bien, nous ferons le point sur la première semaine des Jeux d'hiver de Pyeongchang en compagnie de Hervé Joly, hein, qui devait être là la semaine dernière et qui cette fois-ci donc seront là. Et puis dans la première partie de cette émission, eh bien, on va parler vélo puisqu'on va revenir sur la préparation de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Alors, pour ces prochains championnats du monde aux Pays-Bas, hein, cette équipe de France a été présentée à la presse il y a quelques jours. nous y étions et on est allé un peu plus pénétrer au cœur et dans l'intimité de cette équipe de France. Donc on va commencer tout de suite avec celui qui fait figure d'ancien, hein. Il avait appartenu à l'ancienne génération, celle qui avait été brillante au championnat du monde en 2015 en France et qui ensuite a raté ses Jeux de Rio. Il repart avec cette nouvelle génération, plein d'espoir. C'est François Pervis qui sert un peu de capitaine de route.
Parti avec François Pervis. Alors François, comment vous abordez ce championnat du monde ?
Je les aborde très bien. Je suis très content de pouvoir faire et la vitesse par équipe et la vitesse individuelle. Et la vitesse par équipe, le kering et kilomètre. C'est les trois épreuves que je voulais faire. Donc pour moi, c'est tout bon. Maintenant, la préparation, pour l'instant, tout va bien. Je fais des très bons chronos, notamment au départ de la vitesse par équipe. Pour l'instant, ouais, c'est comme je dis, ça se passe bien.
Ouais, ça sera d'aller donc conserver votre titre de champion du monde du kilomètre.
J'aimerais bien conserver mon titre de champion du monde du kilomètre. Alors cette année, on a vu un Australien qui est vraiment au-dessus du lot. Il s'appelle Glatzer. Il a fait plusieurs fois des kilomètres en dessous la minute au niveau de la mer. Donc moi en ce moment, j'ai pas vraiment de préparation pour le kilomètre, mais notamment plus pour la vitesse par équipe parce que j'ai déjà été 4 fois champion du monde du kilomètre et j'ai jamais été en vitesse par équipe. C'est le seul titre qui me manque parce que j'ai déjà été champion du monde de kering et de vitesse individuelle. Donc là, la vitesse par équipe, c'est vraiment le seul qui me manque. Cette année, j'ai vraiment une équipe pour la gagne. Donc on m'a nommé démarreur de l'équipe de France. J'ai vraiment à cœur de faire super bien et de gagner ce titre. Donc garder mon titre de champion du monde du kilomètre. On va dire que je le prépare pas à 100%. Je suis plus tourné vers la vitesse par équipe.
Alors François, vous l'ancien, comment vous vivez avec ce nouveau groupe ?
Très bien. Les jeunes, ils sont cool. Ils se prennent pas la tête. Ils sont marrants. On rigole bien tous les jours à l'entraînement. Donc on va dire que j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans grâce à eux. Donc c'est bien. Et puis voilà. On a beaucoup d'échanges, c'est sympa. Ils sont pas, on va dire, ils ne regardent pas avec des grands yeux ou ils nous adulent pas. Donc ça, c'est très bien pour eux parce que c'est comme ça qu'ils vont pas se mettre de barrières et puis comme moi j'ai pu me dire avec mes aînés, eux ils sont champions du monde et pas moi, donc je pourrais jamais le battre. Non, ils sont pas du tout comme ça et c'est très bien pour eux et ça attire tout le monde vers le haut parce que eux essayent de me rattraper ou de me dépasser. Et moi, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne me rattrapent pas. Donc c'est un engouement très positif au quotidien pour l'entraînement.
Et objectif 2020 aussi pour vous après ?
Ah moi oui, objectif 2020. Faut pas se cacher sur ma fin de carrière. Donc si je pouvais être champion olympique pour moi au JO de Tokyo. Tokyo, comme on sait, le Japon, j'y ai passé 4-5 mois tous les ans de ces 6 dernières années. Donc c'est un pays qui me tient très cher, qui me tient très à cœur. Donc si je pouvais finir ma carrière là-bas, ce serait vraiment magnifique.
Oui. Et votre contrat d'athlète de haut niveau, on sait que c'était pas toujours facile pour vous. Ça s'est arrangé avec M. Braillard ?
Oui, alors ça s'est arrangé. C'est pas facile. Alors oui, effectivement, j'ai la chance d'être employé par le ministère de la Défense grâce à l'armée des champions. Mais moi, c'est... Il faut que je trouve toujours des partenaires à côté pour essayer d'essayer de mettre du beurre dans les épinards parce que c'est effectivement pas facile, mais bon, il y a quand même eu des belles choses faites par le ministère précédent. Donc là-dessus, ouais, ça a vraiment avancé. L'État reconnaît et aide les sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est très important pour nous.
Et puis après 2020, il y aura Paris 2024. Vous allez peut-être rentrer dans l'encadrement équipe de France.
Pourquoi pas ? C'est souvent la question qu'on me demande. C'est vrai qu'avec toute l'expérience que j'ai acquise depuis maintenant bientôt 20 ans, parce que ça fait bientôt 20 ans que je suis en équipe de France, j'ai développé beaucoup de choses pour ma performance personnelle et qui pourraient très bien servir à n'importe quel coureur en équipe de France. Donc c'est sûr que faire partie de l'équipe de France, ce sera un nouveau challenge. Et puis rester dans l'élite de mon sport, de l'autre côté de la barrière, mais toujours rester dans mon sport et pouvoir apporter tout ce que j'ai développé par mes compétences, ouais, ce serait bénéfique pour moi et je pense aussi certainement pour les jeunes coureurs.
Merci François, puis bon championnat du monde.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, autre ancien qu'on avait notamment vu à l'occasion des championnats d'Europe, hein, où l'équipe de France avait amorcé une résurrection, c'était en octobre 2016. Eh bien, c'est le Bordelais Quentin Lafargue qui lui aussi part naturellement avait des ambitions.
Voilà, d'accord. Quentin Lafargue, bonjour. Alors Quentin, comment vous abordez ces championnats mondiaux?
Pour l'instant, on est dans la prépa finale, donc je suis concentré sur les séances que je mène au quotidien. Et puis voilà, on aura, les coachs l'ont annoncé, on aura beaucoup d'ambition sur ce championnat du monde.
Ouais. Comment vous trouvez ce groupe? Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés quand même.
Finalement, il y en a plus pour vous que pour nous, parce que nous, les nouveautés, on se côtoie tous au quotidien, et déjà depuis pour les plus récents de quelques mois, et pour les plus anciens depuis de nombreuses années. Donc, tout le monde s'entend très bien. Je suis ravi de faire partie de cette équipe. Et puis voilà, je suis content de pouvoir participer à ces championnats du monde avec tous ces jeunes.
Et avec le DTN, tout va bien?
Moi j'ai pas de soucis avec Christophe. Il fait confiance aux équipes qu'il a mis en place et pour l'instant ça fonctionne.
Il y a une épreuve plus qu'une autre que vous avez coché, que vous souhaiteriez gagner?
Disons que les meilleurs résultats dans toutes les épreuves seront bons à prendre. Je pense qu'on a un gros collectif en vitesse par équipe et moi j'afficherai beaucoup d'ambition dans cette épreuve là. Après je suis vice-champion du monde du kilomètre en 2017, donc j'aurai beaucoup beaucoup d'ambition sur le kilomètre aussi. Et puis en Kérine, à moi de montrer, les coachs me font confiance encore une fois, donc à moi de montrer que je peux être performant.
Alors Quentin, pour nos auditeurs, pourquoi avoir choisi davantage la piste?
Et bien disons que les montées ne m'aimaient pas trop. On est vite limité quand on est sprinter sur la route j'avais tout simplement moins de résultats que sur la piste, et j'ai été assez vite passionné par les sensations qu'on peut retrouver sur un vélodrome. Ouais.
Merci Quentin.
Merci à vous.
Alors il y a aussi un jeune, un tout nouveau, c'est Melville Landerneau. Il découvre ce groupe. Il est parti pour apprendre, et notamment lors des prochains championnats du monde qui se dérouleront aux Pays-Bas. Ses objectifs sont beaucoup plus lointains, 2020 et surtout 2024.
Allez, je suis avec un tout nouveau, Melville Landerneau. Melville, comment vous abordez ces championnats du monde, vous, le tout dernier?
Un peu sans pression, j'espère faire la meilleure performance pour l'instant que j'ai jamais faite, et j'espère surprendre et créer la surprise.
Voilà, vous avez été bien accueilli au sein de ce groupe?
Oui, très 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 bien, on s'entend tous très bien, il y a une bonne ambiance de travail. On travaille bien au quotidien, tout se passe bien.
Donc vous venez de la région parisienne, Villeneuve-Saint-Georges. Qu'est-ce qui incite un jeune de la région parisienne comme ça à faire du vélo et ensuite la piste?
Faire du vélo, c'est transmis un peu par rapport à mon frère comme vous avez, et j'en ai fait par défaut, on va dire. Après, au niveau de la piste, c'était plus que j'allais vite sur route, et mon président Patrice Le Russe m'a vraiment forcé à m'orienter et m'a accompagné pour que je fasse de la piste, et il m'a suivi, on a continué et il a eu raison, ça a marché.
Voilà. Alors pour l'instant, dans ces championnats du monde, vous y allez pour apprendre, ou sincèrement, entre nous, il y a un rêve secret de médaille?
Secret de médaille, non, pas jusque là, mais à pas apprendre non plus, parce que j'ai déjà fait quelques compétitions internationales en test individuel. Du coup j'y vais vraiment sans pression et sans, je ne fixe pas de limite de médaille ou de quart de finale ou de podium ou quoi que ce soit. J'y vais vraiment pour donner le meilleur de moi-même et surprendre tout le monde.
Et ensuite il y a quand même Tokyo 2020, ça c'est un rendez-vous important.
Ça reste vraiment un objectif principal. L'objectif Tokyo 2020 et Paris 2024 juste après, ça reste deux objectifs les principaux de ma carrière. Et là, par contre, j'irai, si je suis à champ d'accélération, j'y vais pour chercher des médailles.
Vous imaginez champion olympique en 2024 à Paris?
Imaginez, c'est difficile pour l'instant, mais ouais, c'est un rêve, on va dire.
Très bien, en tout cas, merci.
Merci à vous.
Et bonne chance.
Alors, il était aussi intéressant bien de faire le point avec le tout nouveau DTN du cyclisme français, Christophe Manin, qui a présenté les objectifs du cyclisme français pour cette prochaine année. Et naturellement, Christophe Manin, lui aussi, peut-être même encore plus loin que ses championnats du monde aux Pays-Bas, il veut voir 2020 et 2024.
Alors, je suis avec le tout nouveau DTN du cyclisme français, Christophe Manin. Christophe, comment vous abordez ces championnats du monde? Vous nous avez présenté aujourd'hui l'équipe qui ira fin février au championnat du monde sur piste.
Bon, je l'aborde avec beaucoup de confiance. On a une équipe qui est bien entraînée, bien préparée, des coureurs à la fois un mix de coureurs jeunes, talentueux et de coureurs avec une grosse expérience, et notamment François Pervis qui est en très grande forme en ce moment. Donc on part avec vraiment des objectifs élevés, notamment de voilà, aller chercher quelques titres.
Donc c'est un groupe que vous découvrez, vous l'avez trouvé comment ce groupe ?
Ah, je le trouve très bien, ça fait quelques mois que je le pratique quand même là depuis que donc le centre d'entraînement est juste à côté des bureaux de la fédération. Donc je sais que l'ambiance est très bonne dans cette équipe. C'est un groupe qui me fait plaisir. Vraiment, je suis content de voir là où nous arrivons, puisque quand j'ai été nommé DTN il y a quelques mois, les messages qu'on me disait, attention la piste, il y a le bordel, il faut arranger cette affaire. Bon, je pense qu'elle est... On va dire que les choses se sont grandement apaisées et qu'on est, on ne regarde plus derrière, on regarde devant, et notamment les JO de Tokyo.
Alors justement, il y a les Jeux de Tokyo, mais auparavant, pour ces championnats du monde, est-ce que vous êtes donné un nombre limite de médailles ou de titres ?
Non, je sais pas.
Non. Pas d'objectif.
Les entraîneurs vous les ont donnés, ils sont plus compétents que moi sur ces points de technique. Mais Pervis repart pour aller chercher des titres. On a chez les garçons notamment des chances en vitesse avec Vigé. Donc
Alors effectivement il y a 2020, puis il y a Paris 2024 aussi. Hein. On y pense fatalement.
Alors tout ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui nous emmène vers Paris 2024. Donc avec une génération de jeunes coureurs comme ça, l'expérience qu'ils vont acquérir dans ces championnats du monde vont leur profiter pour les prochains. Les prochains championnats du monde seront sélectifs pour les JO. Les JO de 2020 nous permettront de prendre de la confiance et d'expérience, et tout ça pour 2024. Donc on est dans une démarche qui nous emmène à Paris 2024. Donc cette sélection, c'est déjà quelque chose en rapport avec Paris 2024.
Et vous l'avez dit, c'est de faire de cette fédération une fédération donc à médaille pour justement Paris 2024.
Alors, le cyclisme a la chance d'avoir 22 titres à aller chercher. Donc c'est vraiment beaucoup. On a presque, je dirais, dans presque toutes les disciplines, des champions qui sont capables de remporter ces titres. Les autres nations aussi, mais je pense qu'on est bien placé et le cyclisme doit faire mieux qu'une médaille comme à Tokyo, comme à Rio. Et Tokyo doit être une étape vers Paris, et comme je l'ai annoncé, un objectif de 6 médailles est réalisable à Tokyo, et après une part importante des 80 médailles de la délégation française devrait nous revenir, je l'espère.
Oui, vous l'avez dit, c'est une chance d'être DTN dans une fédération multidiscipline. Hein.
Oui, c'est une chance d'être DTN dans une fédération olympique à un moment où des Jeux olympiques vont se passer en France. Donc les derniers, c'était 1924. Je sais pas, il n'y avait pas de DTN à cette époque-là. Mais oui, j'ai vraiment conscience de la chance que j'ai d'être DTN à cette époque-là. Donc 2024, dans mon cas, c'est encore loin aussi, parce que là, vous me parlez des coureurs, des sélections. Ouais. Les postes de DTN, bon, c'est des postes assez exposés. Donc, mais j'espère bien que l'enchaînement que je vous ai décrit, la réussite sur ces champions du monde qui vont engendrer une réussite sur les prochains, qui engendreront, je l'espère, une réussite à Tokyo puis à Paris. J'espère rester aux commandes de cette belle équipe de France sur cette période.
Est-ce que pour le grand public, la route ne cache pas tout le reste, vous, l'ancien professionnel que vous avez été?
Ah, c'est sûr que là, on est en train de parler de piste. La piste, c'est notre réservoir à médailles. Et dans un objectif olympique, la piste, c'est très important. Mais si on ramène ça à la pratique du cyclisme en France, la piste, c'est presque anecdotique. Il y a quelques pourcents de nos licenciés qui font de la piste. Mais voilà, là, il y a deux visions. Soit on regarde une vision grand public, et à ce moment-là, c'est le cyclisme professionnel, et on est français, c'est le Tour de France, c'est les équipes professionnelles. C'est ça qui emporte l'intérêt du public. Soit on se place sur un plan de l'olympisme, et par rapport à l'olympisme, la piste est loin devant, avec notamment les 12 titres à défendre.
Oui, puis un outil de travail qu'on connaît bien ici au Vélodrome, qui est merveilleux. Hein.
Oui, alors ça, c'est une autre particularité, parce que nos athlètes s'entraînent tous les jours sur un vélodrome. En 2024, ça sera le vélodrome de la course des Jeux Olympiques. Donc ça aussi, c'est un avantage qui plaidera en notre faveur.
Christophe, pour finir, c'est une mission passionnante, exaltante, celle de DTN.
Alors, c'est un travail très chronophage, difficile, mais oui, vraiment un métier fantastique. Et je suis très, très heureux de faire ce métier. Je suis très heureux d'être revenu dans le monde du cyclisme. Et je m'éclate vraiment. Et j'espère que mon travail, surtout, portera ses fruits pour la fédération.
Merci, bonne chance pour le championnat du monde.
Merci.
Et puis dans cette équipe de France, eh bien, il y a une personnalité intéressante, c'est Mathilde Gros. Elle a tout raflé en 2017, même si après elle a été contrainte à une interruption suite à une blessure. Elle était une des grosses internationales féminines de basket, hein, qui aurait dû probablement rejoindre l'équipe de France d'ici quelques années. Et bien du coup, c'est l'équipe de France de cyclisme sur piste qu'elle a donc rejoint, et elle nous raconte son parcours plutôt atypique.
Avec Mathilde Degros, alors Mathilde, comment vous abordez ces championnats du monde ?
Je vais être vraiment dans une optique de reprendre du plaisir, reprendre des sensations. Ça va être vraiment reprendre du plaisir. Bon, bien sûr, dans l'optique de performer, ça c'est sûr, parce que je suis une compétitrice et j'ai la gagne. Mais je vais avoir une épaule un peu moins forte, on va dire, parce que la cicatrisation sera au bout de vraiment 6 mois. Donc ce sera mai. Mais je suis motivée et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et je suis surtout très contente d'y participer parce que c'était pas gagné d'avance. Le chirurgien m'avait dit saison terminée, mais bon, vu que j'ai pris de l'avance sur ma rééducation et que tout se passe bien pour l'instant, je l'espère, je suis très contente de les faire.
Oui, parce que vous avez battu donc tous les records, hein, l'année dernière, tous les regards se portent fatalement sur vous.
Oui, c'est vrai que au niveau médiatique, ça fait drôle parce que je m'y attendais pas. Ça fait plaisir aussi, hein, mais j'essaye de vraiment rester dans ma bulle et de pédaler, d'aller le plus vite possible et d'être la meilleure. Et puis après, on verra ce qui se passe au niveau médiatique.
Alors, comment on passe du basket au vélo ? Vous pouvez nous rappeler un peu tout ça pour les auditeurs ?
Oula, ça a été vraiment du pur hasard. J'étais dans un crêpes, un pôle espoir au basket à Aix-en-Provence. Et en fait, en montant sur un watt bike vraiment par hasard, j'ai pédalé à fond pour rigoler parce qu'il y avait les BMX et notamment l'entraîneur du Pôle France BMX qui est à l'époque Fabrice Vettoretti. Et mon entraîneur de basket, Olivier Jordi, m'a dit tiens, vas-y Mathilde, fais des sprints et puis on verra. Et puis en fait, j'ai pédalé à fond. Et puis l'entraîneur du BMX est venu voir et a dit putain, mais c'est pas possible. Donc ils m'ont fait changer de vélo. J'ai repédalé, je refais des scores de puissance plus haut. Et puis après, tout de suite après, il en a parlé un peu tout autour de lui, l'entraîneur du BMX. Et puis 4 mois plus tard, je suis venue ici parce qu'ils m'ont invité et je suis venue ici pour découvrir la piste. Et après, ils m'ont proposé un projet qui m'intéressait vraiment et du coup, j'ai accepté.
Donc il n'y a pas de regret d'avoir tombé le basket ?
Non, pas de regret. Non. Au début, le premier mois, ça a été dur, je vous avoue, parce qu'en plus, je suis tombée, j'ai fait des chutes, toutes bêtes, hein, mais bon, des écharpes partout, ça brûle, ça pique. Je connaissais pas trop ce parquet-là, moi, on va dire. Mais non, pas de regret, franchement, pas de regret.
Oui, vous êtes passé d'un sport court à un sport individuel ?
Ouais, c'est ça qui a été le plus dur pour moi, c'est que déjà, la piste, c'est le sprint notamment, c'est vraiment un sport individuel. Ça dure aussi une fraction de seconde, hein. Enfin voilà, c'est très très court, alors qu'au basket, on a 40 minutes, même si on fait des erreurs, c'est pas grave, on peut se racheter. Alors que là, non, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai réussi à le gérer parce que notamment, on est l'équipe de France, on a une très bonne cohésion, on s'entend tous très bien. Et voilà, on partage notamment, tout le monde partage ses expériences. C'est très agréable.
Alors, il y a après Tokyo 2020, puis naturellement Paris 2024. Quoi. Vous imaginez championnat olympique en 2024 ?
J'espère déjà en 2020, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que ce sera énorme si en 2024, j'arrive à avoir le grade olympique. Parce que voilà, il y aura tout le monde, ma famille, mes amis. Et ça va être dans ce vélodrome ici même où on s'entraîne. En tout cas, j'espère vraiment, je vais tout faire pour. C'est mon rêve depuis toute petite. Alors, on va tout faire pour.
Très bien, merci.
De rien.
Et le mot de la fin, eh bien avec celui qui, comme Christophe Manin, a surtout des vues sur 2020 et 2024. Hein, il a développé un véritable plan de carrière. C'est Michel Callot, le nouveau président de la Fédération française de cyclisme.
Avec le président donc de la Fédération française, Michel Callot. Michel, dans quel état d'esprit cette équipe de France sur piste qui a été présentée ce matin aborde ces championnats du monde ?
Je crois qu'elle aborde ces championnats du monde avec beaucoup de confiance. Le travail a été très sérieux. Alors, si on prend le groupe Endurance, la symbiose qui existe aujourd'hui avec les équipes professionnelles est très rassurante pour les coureurs, d'abord en premier lieu, et pour notre staff. Donc là, je crois qu'on peut aller au championnat du monde en grande confiance. Pour ce qui est du groupe Sprint, ce qui va être très intéressant, c'est que c'est finalement le premier championnat du monde où on va vraiment pouvoir aligner nos différentes générations d'athlètes. Et moi, j'attends beaucoup de ce championnat pour que les jeunes apprennent beaucoup au contact de leurs aînés, dans le contexte d'un grand événement où il y a toute cette pression, ces médias, etc. C'est pas facile à gérer pour les jeunes. Et puis, je serais très content de voir nos plus anciens montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils font des podiums et que l'équipe de France a besoin d'eux.
Oui, parce qu'on en a parlé ce matin, il y a aussi l'objectif 2020, puis beaucoup plus loin, Paris 2024.
Voilà. Et ce qui a toujours fait la force du sprint français, on en avait rediscuté avec les champions au mois d'avril, c'est ce passage de relais entre les générations, et j'ai l'impression que ça se passe déjà ici à l'entraînement, mais ça va se passer pour la première fois de la nouvelle ère, on va dire, au championnat du monde, et moi j'en attends beaucoup, et je crois que cette valeur-là, elle sera importante pour bien aider nos jeunes à porter ces futurs objectifs, et notamment Paris 2024.
Oui, et puis quand on est président de fédération avec de tels outils comme celui de Saint-Quentin, on est fatalement présent heureux.
Oui, non, c'est sûr que sur ce plan-là, on a tout ce qu'il faut. Et c'est juste magnifique pour nos athlètes de pouvoir s'entraîner sur une piste comme celle-ci, de pouvoir en disposer dans de bonnes conditions. Donc c'est un vrai atout dans notre jeu.
Oui, bon, vous êtes président de la Fédération française qui draine plusieurs disciplines. Est-ce que c'est facile ?
Alors ça, c'est une vraie complexité, ouais. Parce qu'on est olympique maintenant sur 5 terrains différents. Et ça mobilise beaucoup de moyens, et notre principale difficulté par rapport à ça, elle est bien sûr financière. On voudrait mettre plus d'argent pour la partie sportive, pour l'accomplissement de la performance et du haut niveau, mais forcément notre budget est limité, et ça le divise un petit peu quand même, ça le morcelle par rapport à des fédérations qui sont unidiscipline, on va dire.
Et la route, ça ne gâche pas un peu tout le reste vis-à-vis du grand public?
Alors la route, c'est en même temps notre vitrine, oui, hein, par rapport au Tour de France, par rapport aux très grands événements. Et je trouve qu'avec la génération de jeunes coureurs qu'on a, qui sont brillants sur le vélo, mais qui sont également des garçons intelligents, qui communiquent bien, qui ont une belle image, ben voilà, et c'est à nous de savoir aussi capitaliser le mieux possible sur cette activité traditionnelle.
Et puis le fait d'avoir Monsieur Lapartien comme président de l'UCI, ça peut quand même aider.
Oui, ça aide sur plusieurs aspects. Déjà, bon, parce que c'est toujours plus facile quand on connaît bien le président de l'Union cycliste internationale. Et puis ensuite, parce que je crois qu'il y a une communauté d'idées entre ce que prône David sur la scène internationale et par rapport à la rénovation du cyclisme mondial sur route, notamment, et par rapport aux aspirations qui sont celles du cyclisme français à travers la fédération, mais également parce qu'on est très unis sur le sujet, la Ligue nationale du cyclisme.
Et puis, on va y gâter dans nos départements. Il y a un championnat de France sur route à Mantes. Et puis, une dernière étape. Le Tour de France, comme d'habitude, très souvent dans notre région, à savoir donc sur Rouille.
Oui, absolument. Bah, le championnat de France.
Et Paris-Nice.
Alors Paris-Nice, ouais. Il partira effectivement des Yvelines. Le championnat de France dans les Yvelines, pour moi, c'est vraiment aussi une grande satisfaction, parce que c'est une manière très symbolique de marquer l'ancrage de ma fédération qui a son siège ici dans les Yvelines. Et j'étais vraiment très satisfait que le président Bédier et le conseil départemental réagissent favorablement à notre sollicitation sur ce beau projet.
Très bien, président. C'est une tâche exaltante ce que vous faites comme président de fédération.
Oui, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant, les journées sont vraiment bien remplies, mais franchement, on ne les voit pas passer. C'est très très motivant de pouvoir se battre pour l'accomplissement de nos athlètes et pour le développement du sport cycliste.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, bon, on souhaite bonne chance donc à cette équipe de France de cyclisme sur piste. On va rappeler les championnats du monde, ça sera aux Pays-Bas du 28 février au 4 mars. Ça se finira le week-end où commencera Paris-Nice. On va marquer une toute petite pause musicale, une page de pub naturellement, et ensuite on part pour les Jeux d'hiver et Pyeongchang.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez votre devis gratuit au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE. RVE.
Say
hit the road, Jack.
away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Alors comme prévu, nous sommes avec Hervé Joly. Hervé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous n'aviez pas pu venir la semaine dernière, hein, mais ça y est, la neige, elle est partie, c'est terminé. Hein.
Voilà, il n'y a plus de neige, plus de verglas. On a retrouvé l'ordre normal des choses, on va dire.
Voilà, alors on va, je l'ai dit, revenir sur cette première semaine. Nous sommes à mi-Jeux Olympiques, hein, ce matin, au moment où l'on parle. L'équipe de France en est à 7 médailles, donc 3 or, donc 2 argent et 2 bronze. On peut penser qu'elle est sur de bonnes bases?
Pour l'instant, on va dire qu'elle est plutôt pas mal partie. Elle est même en avance par rapport à ce qui s'était passé il y a 4 ans à Sochi. Puisque après une semaine, il y a 4 ans, on en était à 4 médailles. Là, on en a déjà... 7, dont on va dire quelques-unes un peu inattendues, mais je pense que les 15 médailles sont tout à fait envisageables. Au-delà, il va falloir un petit peu de chance aussi dans certaines disciplines.
Alors Hervé, c'est pourtant quand même l'objectif qui a été assigné par l'équipe de France Olympique de ramener 20 médailles, de faire beaucoup mieux qu'à Sochi. Ça va être difficile, c'est vrai, je suis d'accord.
Oui, mais c'est pas impossible. En même temps, c'est pas impossible. Simplement, on voit, comme à chaque Olympiade, des médailles attendues qui nous passent sous le nez. Et à l'inverse, quelques bonnes surprises qu'on n'attendait pas forcément. Donc je pense que ça va être un peu la même chose pour la deuxième semaine. Moi, je vous dis, 15 médailles, c'est jouable. Peut-être 20 également, mais je pense qu'on va déjà commencer par essayer de dépasser les 15. Voilà.
Alors, entre deux défaites, celle de l'équipe de France de rugby et celle du Paris Saint-Germain à Madrid, on passe des nuits blanches, on ne rate rien de ces Jeux d'hiver. Hervé, comment vous avez trouvé déjà la cérémonie d'ouverture? Bien dans la tradition du pays, on sait que c'est de coutume hein, de pouvoir donner la tradition, la culture de son pays à travers une cérémonie d'ouverture.
Oui, bah là, elle a été fidèle à ce qu'on attendait un petit peu pour la Corée du Nord, évidemment. Hein. On a bien vu que voilà, c'était ça m'a rappelé certains Jeux Olympiques qu'on a connus dans le passé, notamment par exemple à Moscou en 1980. Voilà, des cérémonies d'ouverture assez carrées, on va le dire comme ça. Voilà, on sent qu'il y a de la discipline derrière. C'est pas trop dans la fantaisie, mais on va dire que c'était quand même une belle cérémonie.
Oui, et puis cette image symbolique quand même, hein, Corée du Sud et Corée du Nord qui sont réunis en portant donc cette flamme olympique. Ça, c'est un beau symbole.
Oui, tout à fait. On va dire que c'était un peu dans l'esprit des Jeux Olympiques de l'Antiquité, hein, où on le rappelle, à l'époque, tout le monde posait les armes pendant la trêve des Jeux Olympiques. C'était très rarement le cas pendant le XXe siècle et même dans ce début de XXIe siècle, donc on ne peut que s'en réjouir.
Alors les Jeux, on les connaissait en Corée du Sud, puisqu'il y avait eu Séoul auparavant, en 88. Bon, qu'est-ce qui peut différer par rapport à cette année?
On va dire que... Alors déjà, oui. C'est des jeux d'été, des Jeux d'hiver, donc il y a une petite différence, évidemment. Même si les Jeux Olympiques d'hiver restent des Jeux Olympiques à part entière.
Ah bah de toute façon, des Jeux d'hiver, une médaille, ça vaut une médaille d'été. Hein. Le Graal, c'est le Graal pour tout le monde. Hein.
Tout à fait. Je pense, la seule différence, je dirais peut-être, c'est qu'il y a peut-être un angle médiatique un petit peu moins... prononcé que pour les Jeux d'été.
Il y a une concurrence sportive, il y a le rugby, il y a le foot, on en parlait, hein. Ce qui n'est pas le cas l'été où pratiquement il n'y a rien.
Voilà, oui, ben ça c'est certain que c'est en défaveur des Jeux d'hiver. Et puis pour nous en tant qu'Européens, c'est à l'autre bout du monde, comme à chaque fois, voilà, c'est avec le décalage horaire, c'est un peu moins suivi que si c'était en Europe, évidemment.
Oui, bon, enfin, nous, on fait quelques nuits blanches, mais on est là pour ça, alors. On va donc décortiquer les 7 médailles françaises. Hervé, 3 médailles d'or pour l'instant, et la première, oh, elle est très sympa, cette première médaille d'or, hein, avec Perrine Lafond.
Oui, oui, Perrine Lafond, donc, en ski et acrobatique, au niveau des bosses, qui remporte donc la première médaille d'or française. Perrine Lafond, une jeune skieuse de 19 ans, on va la rappeler. Elle avait déjà été championne du monde de ski de boss par équipe à 18 ans. Elle avait remporté une médaille d'argent aussi, toujours dans cette discipline en individuel. Elle a quand même, dans le passé, ramené 10 fois, elle a été, pardon, dans le passé, 10 fois médaillée en Coupe du Monde, toujours dans cette discipline. On va dire que c'est une très belle surprise pour Perrine Lafond de remporter cette première médaille d'or française. Voilà.
Oui, alors, elle vient de l'Ariège, hein, elle a fait ses classes aussi à Font-Romeu, que connaît bien Martin Fourcade. On se rappelle de ces images de Sochi, hein, où elle était en colère, elle avait raté ses jeux à Sochi il y a 4 ans, et elle avait dit, je reviendrai et je serai championne olympique.
Voilà, oui, alors elle était toute jeune, elle avait 15 ans à l'époque, elle avait 15 ans, elle avait terminé 14e de la finale olympique, ce qui était pour elle une grosse déception, mais bon, on va dire qu'à 15 ans, on leur pardonne tout, évidemment. Mais on avait senti déjà, dans le caractère de cette jeune femme, que c'était une jeune femme qui avait beaucoup de volonté, voilà, de la ténacité, de la voilà, qui était une battante, une combattante. On le sentait déjà. Donc, elle n'a fait que confirmer un peu ce qu'on attendait d'elle. Mais en tout cas, remporter une médaille déjà aux Jeux Olympiques, c'est un exploit à 19 ans. C'est également un exploit encore plus important. Et puis, elle a tenu un peu parole, parce que évidemment, quand il y a 4 ans, elle avait dit ça, tout le monde avait un peu souri et rigolé en se disant, elle a 15 ans, elle se rend pas compte de ce qu'elle dit. Mais en attendant, voilà, elle a donné une réponse particulièrement éclatante. Cette année à Pyongyang.
Et c'est vrai qu'elle est pétillante, hein. On l'a vu en interview avec nos confrères qui sont là-bas sur place. Elle est pétillante, hein, cette jeune fille. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mm-hmm. Originaire de l'Ariège, je vous l'avais dit. Alors d'ailleurs, l'anecdote, c'est marrant, puisqu'elle est native de Lavelanais, c'est-à-dire exactement la même commune que Fabien Barthès, l'ancien gardien de l'équipe de France de foot.
Ah ben, c'est bien, ils vont la fêter, surtout. Hein,
voilà, je ne sais pas, mais je leur fais confiance, il n'y a pas de souci là-bas pour fêter cette très belle première médaille française qu'a lancée l'équipe de France sur les rails.
Alors ensuite, la deuxième médaille, bon, celle-là, elle est, j'allais dire, plus classique, plus banale, on s'y attendait, c'est Martin Fourcade, même si il a raté quelques autres épreuves, Martin, quand même. Hein.
Oui, alors c'est vrai que, voilà, il y a eu... pour Martin Fourcade, dans cette première semaine, des déceptions et aussi de la joie. Et évidemment, avec une nouvelle médaille d'or, c'est tout simplement sa troisième médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mm-hmm. Voilà, donc ce qu'avait fait Kili, d'ailleurs.
Oui, mais pas sur le même Olympiade.
Voilà,
hein,
bon, voilà, la différence, c'est que Kili...
C'est énorme, quoi.
Il l'avait fait en une seule Olympiade, voilà. Mais bon, il a encore un peu le temps devant lui, Martin Fourcade. Alors c'est vrai qu'on attendait peut-être un peu plus de lui, peut-être qu'on attend un peu trop, on oublie qu'il y a aussi des adversaires redoutables, notamment chez les Norvégiens, mais en tout cas, très belle médaille pour Martin Fourcade, même si c'est vrai qu'on avait été déçus par d'autres courses au préalable, mais là il a répondu présent, et puis même sur l'épreuve de la poursuite où il a terminé 8e, on va se rappeler qu'il avait raté complètement ses premiers tirs. Il était 37e avant le dernier tir, il a réussi un dernier tir extraordinaire, il a fini en boucle de canon et il a échoué à la 8e place, mais on avait tout de suite compris qu'il n'était pas du tout dans un état d'esprit d'abdiquer, et que il n'allait rien lâcher par la suite pour les autres épreuves. Il a prouvé tout à fait en portant cette médaille dans le 12 km poursuite, 12 km 5 de poursuite. Mm-hmm. Donc c'est sa troisième médaille d'or au jeu, je le disais. C'est également, on va rappeler le palmarès énorme, hein, de Martin Fourcade, qui a déjà été 11 fois champion du monde, 27 globes de cristal, 14 victoires sur une seule saison. Ça, c'est le record égalé, son 2 avoir fait ça. Au préalable, il y a eu Magdalena Fosberg chez les Suédoises dans le passé. Et puis, il a encore quelques courses à disputer et quelques possibilités de médailles. Hein. Il n'y a rien de fini pour Martin Fourcade. Il peut encore réussir une très belle deuxième semaine. Mais c'est vrai qu'il nous a tellement habitués depuis quelques années à remporter des médailles d'or et être sur les podiums. Quand il n'est pas sur un podium, on est forcément déçu.
Ah bah, on sait pourquoi. Il a été porte-drapeau. On sait qu'il y a une malédiction des porte-drapeaux. Bien que ce n'est pas toujours vrai et justifié. Hein. On l'a vu pour Teddy Riner sur d'autres Olympiades d'été. Mais c'est vrai que voilà, porte-drapeau, on laisse parfois un peu d'influx, paradoxalement.
Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Lui, il a pas l'air du tout de croire à ça, évidemment. Mais je pense que voilà, il va nous faire une deuxième semaine pleine de surprises et de rebondissements. Et moi, je crois parfaitement encore en Martin Fourcade dans cette deuxième semaine pour ramener une, voire peut-être même plusieurs médailles encore pour la France.
Et puis on sait que Hervé, traditionnellement, sur ces dernières Olympiades, le biathlon à lui seul, on en a parlé la semaine dernière avec Jean-Claude Jorand, hein, qui était notre invité, ramenait traditionnellement la moitié des médailles de ces Jeux d'hiver.
Mais oui, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Alors on va rappeler tout simplement que le biathlon en France, c'est une toute petite discipline qui ne compte que quelques centaines de licenciés, mais si on fait le prorata du nombre de médailles ramenées aux Jeux Olympiques dans cette discipline, elle est largement en tête devant toutes les autres disciplines sportives en France par rapport au nombre de licenciés et au nombre de médailles ramenées. Et c'est vrai que cette année encore, le biathlon va ramener plusieurs médailles. C'est déjà le cas avec Martin Fourcade et Anaïs Bescon, qui a ramené également une médaille pour le biathlon chez les filles.
Oui, donc ça c'est bien parce qu'on est un peu aussi sur notre faim chez les filles en biathlon. Hein.
Oui,
on n'est pas très loin, mais on est un peu sur notre faim.
Oui, on avait été un petit peu déçus dès le début par la quatrième place de Marie Dorin-Humbert qui avait terminé, échoué au pied du podium. Et puis c'est Anaïs Bescon qui a sorti son épingle du jeu. Alors Anaïs Bescon, je le dis, hein, c'est quelqu'un qui est en équipe de France déjà depuis quelques années. On a plutôt l'habitude de compter sur elle, sans que ça soit du tout péjoratif, hein, dans les épreuves de relais. Mm-hmm. Elle est considérée comme une excellente coéquipière. Et souvent en individuel, elle a échoué tout près des podiums. Elle a déjà été médaillée 5 fois en argent lors des championnats du monde. Et puis, elle a toujours... le petit grain de sable qui fait capoter au dernier moment le fait qu'elle ne puisse pas monter sur le podium, bah cette fois-ci elle a su répondre présent en remportant une très belle médaille de bronze sur le 10 km en poursuite. On va dire que c'est Anaïs Bescon, je dirais que c'est un peu la médaille de la persévérance parce que ça fait des années qu'elle travaille dur, très dur, et elle s'améliore un petit peu plus chaque fois, et là elle remporte sa première médaille olympique. Pour moi, c'est une médaille amplement méritée sur l'ensemble de sa carrière.
Alors, troisième médaille d'or, celle-là, elle fait plaisir aussi, c'est du snowboard. C'est Pierre Vauthier qui remet ça double champion olympique. Ça veut dire qu'il rentre dans l'histoire des très grands sports français. C'est du snowboard.
Ah oui, des doubles champions olympiques, il n'y en a déjà pas beaucoup, ni en été, ni en hiver, mais...
On a eu Douillet et puis Pierre, quand
même. Oui, mais il n'y en a pas des quantités astronomiques, voilà. Mais double champion olympique de snowboard, bah c'est le premier tout simplement, et double champion olympique consécutif, hein, parce qu'on va rappeler que c'était la première fois il y a 4 ans à Sochi. Il avait également été champion du monde dans cette discipline en 2017. Pierre Vauthier, 30 ans, donc il est un peu, lui, on va dire, en fin de carrière. Il est licencié au club de Serre Chevalier là-bas,
Celui de Calfan.
Voilà, tout à fait, voilà. Mais il faut pas oublier que Pierre Vauthier, c'est quand même 29 médailles en Coupe du Monde, dont 20 victoires, 5 petits globes de cristal. Je veux dire, c'est pas un inconnu, loin de là, mais confirmer et conserver un titre olympique 4 ans après, c'est jamais facile, parce que là il était attendu évidemment au pied du podium par tous ses adversaires. Il était vraiment là, plus qu'attendu et surveillé de près, et il a su répondre présent et tirer son épingle du jeu.
Et puis alors, il est tombé dans la demi-finale, hein. Il est tombé, il a pu se relever, il termine quand même troisième, il fallait, les deux seuls n'étaient pas tombés, tous les autres sont tombés, lui s'est relevé, il a terminé troisième, il échappe de peu, donc à l'élimination.
Oui, alors c'est vrai que là, il n'y a rien à dire sur son titre, parce que en demi-finale, il est passé tout près de la catastrophe, effectivement, il y a eu une chute de plusieurs concurrents, dont deux ont réussi à s'en sortir et à partir. Et on attendait impatiemment quel était le snowboarder qui allait sortir derrière la dernière bosse, parce que c'était celui qui était le seul qui pouvait encore se qualifier. Et c'est Pierre Vauthier qui est sorti le dernier de cette bosse-là pour pouvoir s'emparer de la troisième place et se qualifier pour la finale. Donc il est vraiment passé tout près de la catastrophe, donc on peut vraiment, on peut pas vraiment dire qu'il a eu beaucoup de chance sur ce coup-là, voilà, que c'est une médaille d'or amplement méritée.
Voilà, comme quoi ça tient à pas grand-chose. Alors ensuite, dans cette première semaine, il y a deux médailles d'argent, Hervé, oui. Pour la délégation française.
Oui, tout à fait. Alors on a eu Alexis Peintureau, donc Alexis Peintureau, bon, on le connaît, hein, lui, un habitué, voilà, pour les spécialistes du ski alpin, on le suit depuis très longtemps. Alexis Peintureau, il avait déjà remporté le bronze aux Jeux Olympiques de Sochi il y a 4 ans. Il est le seul Français de l'histoire à remporter la Coupe du Monde de combiné en 2016 et en 2017. Il a été médaille de bronze au championnat du monde 2015 en slalom géant, champion du monde par équipe en 2017, double champion du monde junior en slalom géant. Alexis Peintureau, c'est 21 victoires en Coupe du Monde. Et 45 médailles en Coupe du Monde également, c'est un palmarès énorme. C'est vrai que on s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'il allait pas craquer dans cette finale. Il a parfaitement su répondre présent sur cette course là et puis surtout ils sont deux Français sur le podium, puisque oui. Derrière lui, on retrouve Victor Muffat-Jandet.
Voilà. Alors, bon, Peintureau, il répond d'une façon générale sur des championnats du monde ou bien des jeux toujours présents. Muffat-Jandet, c'est la bonne surprise. Hein.
Oui, alors lui, c'est un peu, voilà, on va dire que c'est l'exemple type de la médaille qu'on n'attendait pas réellement, sans vouloir lui faire offense, hein, évidemment. C'est un skieur de qualité. Mais je pense que même lui, si on lui avait dit au départ qu'il serait sur le podium, il aurait signé tout de suite dès demain. C'est sa première médaille olympique, évidemment, mais il a également remporté 6 médailles en Coupe du Monde. Et c'est vrai que lui, c'est un peu le skieur surprise, voilà, Victor Muffat-Jandet, donc, voilà, qui est licencié là-bas du côté des douanes à Val d'Isère, là-bas.
Voilà, alors on va rappeler quand même qu'ils s'inclinent tous les deux derrière Hirscher, c'est pas rien, c'est celui qui domine la spécialité. Schifrin est aussi championne olympique, donc ça veut dire que les grands sont là, ce qui n'est pas toujours le cas en ski, hein, où des fois c'est des inattendus qui gagnent. Là, cette fois-ci, les gros de la discipline sont là, donc ces Jeux olympiques.
C'est vrai, terminé deuxième et troisième derrière Marcel Hirscher, voilà, il y a rien à regretter, je veux dire, là, voilà, c'était l'archi favori, il a confirmé, comme Schifrin chez les filles. Donc il n'y a pas de regret à avoir de ce côté-là. C'est une très belle médaille d'argent et une très belle médaille de bronze pour les Français. Voilà, ils pouvaient difficilement espérer mieux. Hirscher était le grandissime favori de l'épreuve.
Bon, par contre, déception pour Tessa Worley.
Oui, alors c'est vrai que Tessa Worley, on attendait beaucoup mieux d'elle. Là, c'est peut-être une des plus grosses déceptions de cette première semaine. Elle avait réussi un très beau début de saison. On la sentait motivée, elle avait fait des belles choses là, ces dernières semaines. Même ses adversaires l'avaient comptabilisée parmi les concurrentes les plus dangereuses. Là, c'est vrai qu'il y a eu une très grosse déception du côté de Tessa Worley. Tout ce qu'on va lui souhaiter, évidemment, c'est de pouvoir rebondir sur d'autres épreuves dans les semaines et dans les mois qui viennent.
Voilà, alors on a parlé des médailles de bronze, on a parlé des médailles d'or, il nous reste une médaille d'argent, c'est la toute dernière, c'est Julia Pereira de Souza en snowboard, ça aussi c'est une bonne surprise.
Voilà, alors ça c'est une très bonne surprise, voilà.
19 ans aussi, hein.
Voilà, non,
16 ans.
Elle a 16 ans, tout à fait, alors elle rentre même dans l'histoire de l'équipe de France, puisque jamais dans l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, on n'avait eu quelqu'un d'aussi jeune.
Voilà, c'est ça.
Au niveau des médailles, elle a 16 ans et 149
jours. 19 ans, c'est la fin.
Voilà, 16 ans et 149 jours, le jour de sa médaille. Alors, c'est vrai qu'elle est un petit peu atypique, on va dire, Julia Pereira de Souza Malibo. Là, elle est née d'abord à Quincy-sous-Sénart, en région parisienne.
Oui, comme quoi, comme
voilà.
Quoi.
Comme, oui, comme quoi, voilà, il n'y a pas besoin d'être natif d'un pays de neige. Elle s'entraîne, elle est licenciée là-bas du côté d'Isola 2000, voilà, où elle s'entraîne une bonne partie de l'année. Elle avait déjà remporté 2 médailles en Coupe du Monde. C'est pas forcément elle qu'on attendait le plus dans cette épreuve, notamment chez les Françaises, avec Chloé Trespeuch, qui avait remporté une médaille il y a 4 ans et qu'on attendait beaucoup plus qu'elle, et qui a eu le malheur de tomber à quelques mètres la ligne d'arrivée. Je pense qu'elle pouvait encore accrocher une médaille. Malheureusement, elle a chuté à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Voilà, C'est la malchance, et c'est vrai que Jeux Olympiques, ça fait très très mal, ça. Mm-hmm. Mais c'est sur la médaille de Julia Pereira de Souza, il n'y a absolument rien à dire. Elle a fait une très belle course. Lorsqu'on regarde sa course dans le détail, elle n'a cessé de remonter. Elle a eu une stratégie de course d'une très grande intelligence. Elle s'est toujours bien placée dans la trajectoire qu'il fallait, au moment où il fallait. Elle a très bien suggéré sa course. Et à l'arrivée, ça se termine avec une médaille d'argent. Évidemment, même elle était très contente et super étonnée parce qu'elle s'y attendait pas. Et je pense qu'elle a vraiment aucun regret à avoir parce que devant, l'Italienne était un petit peu au-dessus. Même si c'est pas forcément elle qu'on attendait le plus avec l'Américaine, mais en tout cas sur cette course-là, là, il y a vraiment rien à dire sur cette médaille de cette toute jeune skieuse dont on reparlera, je pense, dans les années qui viennent.
Oui, parce que 16 ans, elle rentre dans l'histoire.
Hein. Oui, ah bah oui, là, médaillée à 16 ans au jeu, c'est déjà pas courant. Ah, oui. Et en équipe de France, c'est jamais arrivé. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein, voilà.
Il y a peut-être qu'en gym qu'on a des plus jeunes pour les jeux.
Oui, d'été. Oui, on a eu en gym, notamment avec Émilie Le Pennec, notamment. Mais en jeu d'hiver, en tout cas, c'est la première fois que ça arrive.
Alors, donc, on est à mi-jeu, on l'a dit, hein, objectif 20 médailles, on devrait plutôt arriver vers les 15. Quelles sont les disciplines qui peuvent nous porter des médailles? On attend beaucoup du patinage, hein, un Japonais a conservé son titre. Ça aussi, c'est un exploit, c'était plus arrivé depuis les Jeux de 1952. On attend beaucoup quand même donc de nos patineurs et patineuses.
Oui, on peut avoir encore quelques médailles, évidemment. Alors, dans le patinage, notamment en couple, voilà, avec... on peut obtenir au moins une médaille. Et puis
Papadakis Cidron.
Oui, Papadakis Cidron, voilà, qui eux, normalement, le minimum qu'on va espérer pour eux, c'est un podium. Voilà, peut-être mieux. Mm-hmm. Mais en tout cas, sans aucun doute, on peut viser sans fausse modestie, je pense, un podium, très largement. Même si eux, évidemment, ils visent la médaille d'or. Mais là, ça risque d'être un peu plus difficile. Pas impossible, hein, pas impossible, mais difficile. Et puis, il y a d'autres disciplines où on peut encore récupérer des médailles, notamment encore en biathlon, on l'a déjà dit, en biathlon avec Martin Fourcade, oui. Avec les filles et les relais. Moi, je pense que dans les relais de biathlon, c'est-à-dire en toute fin d'Olympiade, là, on a des possibilités de ramener quelques médailles, que ce soit dans le relais mixte ou dans les relais masculins et féminins.
Oui, et puis d'autres disciplines aussi, comme le snowboard ou le ski de bosse, où on peut faire encore mieux au niveau du nombre de médailles.
Tout à fait. Dans le ski acrobatique, snowboard,
ice pipe.
Voilà, tout ça, c'est des disciplines où on peut encore ramener quelques médailles. Il y a beaucoup de jeunes qui poussent là, qui sont là, qu'on connaît pas forcément énormément au niveau du grand public, mais qui peuvent accrocher quelques médailles. Donc moi, je pense que sans aucun doute, là, on peut au moins doubler la mise, et puis peut-être voir un peu plus s'il y a un tout petit peu de chance, parce que il faut quand même se le dire, il y a évidemment le talent, mais il y a toujours une petite part de chance aux Jeux Olympiques, quelle que soit l'épreuve.
Bon, par contre, il y aura des sports comme le short track, le patinage de vitesse, la luge, le bobsleigh, le skeleton. Là, on n'aura rien. Mais parlons pas du hockey, on n'est même pas représenté.
Non. Là, je pense que dans ces disciplines-là, ça serait vraiment une énorme surprise, et j'y crois pas trop. On est vraiment un ton en dessous
Ça veut dire qu'on est en retard, on a peu de pratiquants compétitifs.
Après, il y a des explications. Par exemple, au short track, des pistes d'entraînement pour le short track en France, il y en a quasiment pas. Ils vont souvent s'entraîner à l'étranger. Nous, c'est encore un sport très minoritaire par rapport à d'autres pays. Tout ce qui est patinage de vitesse, on le voit par exemple par rapport à un pays qui écrase les autres actuellement, c'est les Pays-Bas, qui eux ont fait de cette discipline olympique leur spécialité des Jeux d'hiver. Ils ramènent toutes leurs médailles uniquement dans cette discipline. Ils sont classés pour l'instant 3e au nombre des médailles, avec les médailles obtenues essentiellement dans cette discipline. Alors il y a l'explication des canaux gelés aux Pays-Bas l'hiver et tout, mais il y a aussi beaucoup de patinoires pour s'entraîner, ce qui n'est pas le cas forcément en France, où il faut partager les patinoires entre les hockeyeurs, les patineurs, le chat, voilà. Donc il y a un moment donné où il y a des choix. Il y a la culture aussi de certaines disciplines, et puis c'est vrai que c'est pas des disciplines traditionnellement où on réussit beaucoup, même si au short track depuis quelques années on a des concurrents qui se présentent, mais qui n'ont encore pas atteint le très très haut, le gratin du niveau international.
Voilà. Et puis le curling, ce sport dont on se moque souvent, eh ben, on n'y est pas non plus, hein, on n'est pas compétitif.
Oui, le curling, oui. Alors, voilà. C'est vrai que voilà, c'est lorsqu'on regarde le curling, on retrouve souvent les mêmes pays. Hein, voilà.
La Suisse notamment.
Voilà, la Suisse, le pays scandinave, le Canada. Voilà, et la France ne fait pas partie de ces nations-là. Voilà. Et il faut se le dire tout simplement comme ça. Hein, voilà.
Hervé, il y a une image forte pour finir cette première semaine. Peut-être le Tongien qu'on a vu torse nu dans la cérémonie, et puis qui termine quand même donc son épreuve de ce qu'ils font. Hein.
Oui.
Juste devant le Mexicain et le Colombien.
Oui, alors c'est vrai que voilà, tout le monde avait été surpris par sa tenue le jour de la cérémonie d'ouverture. Il faut savoir qu'actuellement, il fait des températures polaires là-bas à Pyongyang. Certains jours, ils ont approché les moins 20 degrés. Voilà. Lorsqu'on l'a vu arriver torse nu, ça a un peu surpris tout le monde. Ça a beaucoup fait rire, mais en tout cas, voilà, il a répondu présent. Et voir un Tongien au jeu d'hiver, ben, pourquoi pas.
Il termine 114e devant le Mexicain et le Colombien. Ou le Colombien et le Mexicain, je ne me rappelle plus. Mais enfin, il termine 114e.
Oui, mais pour un pays où il n'y a aucune piste, où il n'y a pas de neige, où il n'y a rien du tout, voilà, il a eu au moins le mérite de participer, comme dirait l'autre. Voilà. Après, il y a eu oui des images fortes évidemment dans beaucoup de disciplines. Notamment moi, j'ai été très marqué par la domination des Hollandais en patinage de vitesse, qui vraiment ont écrasé cette première semaine. Mais il y a évidemment beaucoup d'images qui reviennent et celles qui vont venir lors de la deuxième semaine.
Absolument. On va continuer à vivre donc beaucoup d'émotions fortes durant cette deuxième semaine. Merci Hervé. On fera une synthèse et un bilan la semaine prochaine de ces jeux. Hein. Et puis on vous aura aussi pour parler du prochain semi-marathon de Rambouillet avec donc Rambouillet Olympique. Merci.
À Rambouillet, 14 rue Châle, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, store, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. C'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Châle, à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Et maintenant, retour des hits sur RVE. RVE.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des
clip, crack,
des,
bang,
des,
bang,
et des...
Zip, shabam, pow, blop, whew.
Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait,
viens,
ça fait,
splash,
et ça fait...
Stop.
Ou bien, ou parfois même...
Shabam, pow, blow, whew.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des
clip, crack,
des,
bang,
des,
blow,
et des...
Zip, shabam, pow, blow, whew.
Viens avec moi par-dessus le building. Ça fait...
Whew.
Quand on s'envole et puis... Je fais
tilt,
et ça fait
boing, shabam, pow, blop, whew. Shabam, pow, blop, whew.
Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
blop,
et des
zip, shabam, pow, blop, whew.
N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi. Je suis là,
crack,
pour te protéger.
Shot.
Ferme les yeux,
crack,
embrasse-moi.
Slack, shabam, pow, blop, whew, shabam. shabam, pow, blanc, whiz.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Voilà, merci donc à Hervé Joly. On le retrouvera la semaine prochaine pour nous faire naturellement le bilan de cette deuxième semaine des Jeux d'hiver de Pyeongchang. On l'aura aussi comme invité pour la sélection Rambouillet Olympique, puisqu'on évoquera le prochain semi-marathon. Merci à toutes et à tous. On vous a gâté ce matin entre le vélo et puis les Jeux Olympiques. Bonne semaine, bon dimanche. Restez-nous fidèles. Merci à Arthur d'avoir été aux manettes. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, 10h-11h. Merci à toutes et à tous.